Noémie et moi. Effectivement, je retrouve cette église de Créteil que j'ai eu l'occasion, comme Émile l'a dit, de visiter plusieurs fois. Et les plus jeunes qui étaient là à l'époque, comme la petite sœur qui m'a accueilli, qui nous a accueillis ce matin, elle nous a dit qu'elle est pratiquement née dans l'église. Donc ses premiers pas, nous avons sûrement vu ses premiers pas, mais elle ne se souvient pas de nous. Et c'est vrai que, à part certains, Émile et son épouse, le frère qui jouait au clavier, eh bien, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui me connaissent, qui nous a vus? Donc, si elle était bébé, sa maman était peut-être là, je suppose. Voilà, en tout cas, nous sommes ravis d'être là, de partager ce moment de culte avec vous. Eh bien, figurez-vous, je ne sais pas si vous en êtes convaincus, mais le Seigneur nous a précédés ici ce matin. Et quand j'ai entendu la louange, le premier chant, c'était en quelque sorte mon message. C'était mon message. Vraiment, il est vivant, notre Dieu. Il est vivant. Et il nous précède en toutes choses. Ce matin, ma démarche est de vous encourager. Hein, de vous encourager. Et tous les cantiques que nous avons interprétés ce matin traduisent une certaine intimité avec notre Dieu. Nous avons proclamé bien des choses par ces chants. Mais ce sont des choses que nous devons vivre au quotidien. Il ne nous suffit pas de les chanter durant le culte, mais dans notre cheminement, dans notre vie au quotidien, il nous faut nous approprier tout ça. Et surtout cette intimité profonde avec Dieu. Alors ce matin, je vais lire deux petits passages très courts dans les livres des psaumes. Déjà au psaume 34, les versets 18 à 19, ce sont des psaumes de David. Où il nous dit à partir du verset 18, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ensuite, au psaume 40, Psaume 40, des versets 2 à 4, pourquoi pas à 5. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimés, chers amis, avez-vous déjà été dans un état d'abattement? Autrement dit, fatigué, tant physiquement que moralement, voire découragé par une épreuve, une situation qui, je dirais qui nous prend la tête. Que nous dit le dictionnaire au sujet de ce mot abattement? Être abattu, c'est être à bout de force, tant physique que moral. Un échec, une épreuve, une situation qui nous semble très complexe d'en sortir. Tout cela peut nous conduire dans cet état d'abattement. Et nous pouvons être touchés, comme je l'ai dit, tant physiquement que moralement. Et de surcroît, spirituellement. Et ce champ d'état peut nous entraîner à sombrer. À sombrer dans le doute. Et la question qui peut nous tarauder malheureusement l'esprit est la suivante. Une petite voix qui vient nous susurrer à l'oreille, à l'esprit. Où est Dieu? Où est ton Dieu? Pourquoi ce silence? Pourquoi ne se manifeste-t-il pas? Chers amis, qu'est-ce qui peut nous amener à vivre et à rentrer dans ce genre d'état? Alors nous l'avons dit, des problèmes en tout genre, la santé qui défaille, les finances qui ne sont pas au beau fixe, des problèmes familiaux, sentimentaux, ça peut s'entrechoquer entre conjoints, la scolarité des enfants, et pour couronner le tout, vous avez les pires collègues au travail. Ne parlons pas des voisins qui sont tellement infects. Alors on se dit vivement dimanche ou vivement la réunion de prière qu'on puisse se réfugier. L'église devient notre seul refuge. Alors on fait un grand ouf, vivement dimanche. Le soulagement. Et puis parfois, eh bien, non. Ça ne va pas non plus. Nos différences, nos tempéraments qui peuvent s'entrechoquer. Oui, c'est vrai, les problèmes peuvent être divers et variés. Et voyez-vous, nous pouvons avoir les mêmes problèmes. Nous pouvons être confrontés aux mêmes problèmes, mais nous pouvons les aborder différemment. Certains vont faire vite de faire face à cela pour pouvoir résoudre ces problèmes. Rapidité, empressement. Et puis d'autres seront tellement dans la stupéfaction, dans la prostration, vont se retrouver tétanisés. D'autres seront dans l'indolence, la mollesse, la lenteur. On verra demain, on verra après-demain, avant de réagir, s'il y a réaction. Et puis la frustration qui peut faire naître aussi en nous un sentiment de révolte. Pourquoi? Pourquoi en suis-je arrivé là? Pourtant, j'ai Dieu. J'ai Dieu dans ma vie. Et dimanche, je chantais à tue-tête, « Je t'aime, Seigneur !» Où est mon amour pour lui? Et la question qu'on peut se poser, où est son amour pour moi? Pourquoi en suis-je là? Pourtant, j'ai Dieu dans ma vie, je lui appartiens, je suis à l'église tous les dimanches, même à la réunion de prière. Je donne ma dîme. Et là, je suis découragé, voire complètement désespéré. Donc, il n'y a aucune réflexion saine. Il n'y a aucune remise en cause personnelle. et nous avons l'audace de remettre en cause par notre attitude, par notre raisonnement, la fidélité, voire la présence de Dieu dans notre vie. Et c'est là que le bât blesse, n'est-ce pas? Nous y reviendrons plus tard. Mais pour l'instant, permettez-moi de faire un constat global. Quand nous regardons autour de nous, dans cette société dans laquelle nous évoluons, dans ce monde dans lequel nous sommes, quand nous regardons les choses de près, avons-nous l'impression que tout va bien? Que ça va comme sur des roulettes? Il n'y a rien pour vraiment nous encourager à avancer. Tout est sombre. Et si on s'aventure à dire que le monde est complètement déglingué, autrement dit complètement en état de déchéance, tant physique que morale, voire spirituelle, on peut vous rétorquer que ce n'est pas très nouveau. Toutes les époques ont connu des crises, des turbulences. Mais aujourd'hui, il faut dire que le pourcentage est conséquent, le pourcentage qui peut nous pousser justement à vraiment baisser les bras et à ne plus lutter. Et combien de personnes, de familles sont dans cet état? Aujourd'hui, il y a une absence de civisme, il n'y a plus aucun respect de l'autorité. Quand il y a de l'autorité. Et quelle autorité? Parfois, on la remet en cause. Ce n'est plus de l'autorité, c'est de l'autoritarisme. Ce n'est pas pareil. Hein. Et puis, même le climat qui s'y met, n'est-ce pas? Les enfants qui s'entretuent ou qui tuent. Vous vous rendez compte que maintenant, on n'a pas besoin d'aller chercher dans la pègre, dans la grande mafia, des tueurs à gages? Il suffit de donner à un enfant 50 euros et puis il vous bute quelqu'un. C'est fou. Oui, c'est vrai, toutes les époques ont connu leur crise. Mais on ne peut pas nier que cet état de fait se manifeste davantage au grand jour. Tout cela aussi est facilité par nos énormes moyens de communication, n'est-ce pas? Tant officiels ou non, des médias qui font passer toutes sortes d'idées et courants de pensée bien contraires à la bienséance, à la bienveillance. On peut dire qu'il y a une véritable dégénérescence de civisme, du civisme. La bienveillance est hélas bien souvent mise en veilleuse, voire aux abonnés absents. L'autorité est bafouée. Alors c'est vrai, je vous l'accorde, je suis en train de dépeindre un tableau bien triste, n'est-ce pas? Mais c'est pourtant la réalité. C'est la réalité. Et je me suis retenu d'aborder dans mon intervention de dépeindre, de citer ce que nous offrent nos gouvernants. Et je dirais, excusez-moi du terme, nos gouvernants de tout poil, de tout acabit. Quelle triste réalité. Alors, hélas, oui, c'est une réalité, c'est une vérité. Et c'est là, justement, j'avais dit qu'on y reviendrait, c'est là que le bât blesse. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous, là, présents ici ce matin, qui sommes-nous? quelle est notre identité? Pour nous, enfants de Dieu, co-héritiers de Christ, disciples donc de Jésus-Christ, trop souvent, et c'est particulièrement grave, bien-aimés, nous faisons fi des promesses de Dieu. Nous les oublions, nous les mettons de côté. Ils ne sont pas toujours présents à notre esprit. Alors c'est pour cela que je dis, qui sommes-nous? Vivons-nous réellement ce que nous sommes au quotidien? Nous vivons comme si ces promesses n'existaient pas à notre égard, comme si nous n'étions pas disciples du Christ. Vous savez, le climat ambiant, c'est en fait le découragement. Quand vous entendez vos voisins, vos collègues, vous, même dans la famille, c'est on tire l'alarme en quelque sorte. Vous avez vu tout ce qui se passe. Je n'allume plus la télé. Je n'écoute plus la radio parce que ça me met le moral à zéro. Oh là là. Je ne fais pas de politique. Mais tu as vu comment la vie est chère? Tu as vu le prix du beefsteak? Mais je ne fais pas de politique. À partir du moment qu'on remet quelque chose en cause, on fait de la politique, quelque part, à notre niveau. Nous sommes concernés. Tout ce qu'ils font là-haut, mais pas là-haut, pas du côté du Père, hein, mais dans les hautes sphères, les décideurs, tout ce qu'ils font nous concerne. Et nous ne sommes pas toujours satisfaits de ce qu'ils font, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas, nous, enfants de Dieu, enfants de la lumière, nous ne pouvons pas leur emboîter le pas et nous mettre à nous plaindre, à gémir aussi. Vous comprenez? Quelle image nous donnons? C'est pour cela que je dis, quelle est notre identité? Est-ce qu'elle se reflète pleinement à la face de ce monde? Et pourtant, c'est ce que le Seigneur veut de nous, que nous soyons ses ambassadeurs, ses porte-paroles. Mais il ne suffit pas de parler, hein, parce qu'on parle, il y en a beaucoup qui parlent, hein, parmi les chrétiens, on parle. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que... Mais ce n'est pas tout. Nous avons une attitude. Nous avons un fonctionnement à avoir. Nous avons à refléter cette lumière. Nous avons à refléter cet amour. Et puisque je t'aime, Seigneur, aide-moi à tendre la main. Aide-moi à être un porteur de paix, un porteur de joie, un porteur d'amour. Seigneur, aide-moi à ne pas oublier ce que je suis. Voyez-vous ? J'aime à dire que nous sommes chrétiens, mais nous sommes chrétiens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une fois que nous franchissons le seuil de cette salle de culte, nous ne mettons pas notre habit de chrétien aux oubliettes. Nous sommes enfants de Dieu, co-héritiers et disciples de Jésus-Christ, le roi des rois. Nous l'avons chanté ce matin, le Seigneur des seigneurs. Voyez-vous, nous venons de célébrer Pâques. Nous avons proclamé par cet événement que Christ est véritablement ressuscité. Nous l'avons proclamé entre nos murs d'église, d'assemblée. Mais il nous faut vivre au quotidien, parce que je dis, que ce soit Noël, que ce soit Pâques, nous n'attendons pas ce que le calendrier, hein, met devant nous, nous invite à faire. Mais Pâques et Noël, ben, la naissance du Christ, mais c'est tous les jours pour nous, enfants de Dieu. Nous devons nous en souvenir. Rappelons-nous, souvenons-nous. Un jour, nous avons fait une confession de foi après avoir fait acte de repentance. Et c'est comme ça que nous sommes devenus chrétiens. C'est comme ça que nous sommes rentrés dans cette appartenance. Une appartenance divine. Nous avons ouvert la porte de notre cœur. En tout cas, il est entré. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été réticent. Parfois, il a voulu rentrer, et puis j'ai fait ça. Barrière. Il est entré. Nous avons expérimenté son pardon, nous avons cru en ses promesses, et nous étions prêts à recevoir toutes les exhortations. Et elles sont nombreuses. Et au début de notre conversion, eh bien, nous voulions convertir le monde, n'est-ce pas? Nous étions convaincus par les promesses, par les exhortations. Elles étaient bonnes pour nous. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il après des années? À quel moment, bien-aimé, Jésus a-t-il déclaré que nous, chrétiens, nous n'aurions plus du tout d'épreuves, plus du tout d'afflictions, plus du tout de tribulations, plus de problèmes du tout? Alors que lui, lors de son petit passage sur terre, il en a eu. Paul, il s'est tourné les pouces. Il n'a pas eu de problème du tout. Et David avant Paul, il n'a pas eu de problème. Si vous avez une référence qui stipule que le chrétien n'aura jamais de problème, à la fin du culte, vous me passerez cette référence. Parce que je ne la connais pas et je ne sais pas tout. Mais on n'a jamais fini d'apprendre. Alors, je suis preneur. Cependant, par sa parole, Jésus nous met en garde contre bien des choses qui peuvent être des éléments, je dirais, perturbateurs pour notre foi, pour notre engagement, pour notre amour pour lui. Des façons de faire, des façons de vivre qui sont sans aucun doute des occasions de chute pour nous. Des occasions de dévier de route. Alors pour contrer tout cela, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il dit? Il a affirmé nous avoir laissé sa paix, n'est-ce pas? La paix véritable que nous ne pouvons avoir qu'en lui, face à nos ennuis, face à nos épreuves. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, et je ne vous donne pas comme le monde donne. La paix que le monde donne est éphémère, n'est-ce pas? Alors il nous dit, face aux épreuves, face aux tribulations de toutes sortes, il nous dit de prendre courage. Il a vaincu le monde. Notre adversaire est fort, n'est-ce pas? Mais Jésus est plus fort. Hein? Au début du culte, nos petites sœurs, hein, elles nous ont dit, elles nous ont invitées à proclamer le nom de Jésus. Jésus, c'est un nom qui fait trembler l'adversaire. Mais ça invite à une intimité avec lui. Si nous n'avons pas d'intimité avec lui, de dire Jésus, ça ne sert à rien. Au contraire, il se déchaîne l'adversaire. Je vous ai dit, cela invite à une intimité étroite avec Dieu. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors effectivement, dans nos ennuis, nos maux de toutes sortes, dans nos impatiences, avant de nous poser des questions sur le silence de Dieu, sur la non-réaction de Dieu devant notre désarroi, l'abattement qui peut nous atteindre. L'abattement dans lequel nous sommes plongés, nous devrions nous poser la question suivante. Où en suis-je, moi, avec Dieu? Au lieu de dire, mais où est Dieu? Nous poser des questions sur sa non-réaction. Posons-nous la question. Où en suis-je avec Dieu? Nous devrions. Vraiment, nous poser des questions sur le temps que nous passons avec lui. Nous devrions prendre le temps de passer au peigne fin notre relation avec Dieu et considérer sa présence dans notre vie. Souvenons-nous de ces paroles du psaume 46 des fils de Corée, et versets 11 et 12. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et auparavant, au verset 2, il nous est dit que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Avant de promener des regards inquiets, souvenez-vous de Ésaïe 41:10. Ah, ça c'est mon verset fétiche, entre guillemets. Ne vous inquiétez de rien. Ne soyez pas dans la crainte. Ne promenez pas de regards inquiets. Je viens à ton secours. Je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, Dieu est pour nous un refuge. Bien-aimés, prenons le temps de nous arrêter et considérons la présence de Dieu dans notre vie. Comment je vis avec lui? Dans mon quotidien, ma relation avec lui est-elle constante, permanente, intime? Cette relation se traduit comment? Comment? Et ces exhortations, ces promesses, est-ce que nous nous les approprions vraiment? Dans Matthieu 6, Matthieu nous invite à ne pas laisser les inquiétudes nous envahir pour demain. Que sera demain? Nous ne sommes pas maîtres de demain, de l'heure qui vient. Nous n'en sommes pas maîtres. Il nous faut nous approprier véritablement les promesses de Dieu. Jésus nous met en garde contre certaines inquiétudes qui peuvent nous assaillir. C'est d'ailleurs dans ce chapitre 6 de Matthieu qu'il nous a laissé ce modèle de prière qu'est le Notre Père, n'est-ce pas? Et justement, parlons-en de prière. Aïe, 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 aïe. Sujet délicat, n'est-ce pas? Même question particulièrement douloureuse. Elle équivaut à la question de tout à l'heure, comment nous nourrissons notre relation avec Dieu? Suis-je véritablement dans une relation intime avec Dieu si je ne prie pas, si je ne lis pas sa parole? Comment puis-je parler de relation, d'intimité? Pour être plus terre à terre, prenons le cas de deux personnes. Il y a peut-être des personnes qui sont seules ici. Mais d'une façon générale, dans les familles, on croise du monde, n'est-ce pas? Papa, maman, ma femme, mon mari, etc., ma grand-mère, bref, ou même si c'est une cohabitation amicale, on a du monde. Est-ce qu'on se parle? Sauf si on boude. On ne se parle pas. Et ce n'est pas une bonne chose de bouder trop longtemps. Il ne faut pas que le soleil se couche. Il faut vraiment méditer sur le fait que nous sommes rentrés, pas en religion. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous avez rencontré le Christ, vous n'êtes pas rentré en religion. Juste une parenthèse. Quand les gens du dehors vous interpellent sur votre façon de fonctionner ou sur votre engagement chrétien, qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment tu as rencontré Dieu? Comment tu es sauvé? Comment tu as été sauvé, etc., etc. Ils vous disent, mais vous n'êtes pas comme les... Mais vous ne faites pas comme eux. Est-ce que chez vous, on... Ils vous opposent à d'autres religions. Quand on vous aborde sur ces sujets-là, tournez les talons. La personne n'est pas intéressée par Dieu. Et vous allez vous embrouiller. Et vous pouvez dire à la personne, si vous voulez parler de Dieu, on en parle. Mais pas de religion. Quand vous parcourez ce livre, qui est la Bible, que nous croyons être la parole de Dieu, et est-ce que il y a un chapitre qui vous dit d'aller chez les uns tels et pas sur celui-là ou pas chez... Sortez de là, allez ailleurs. Si le Saint-Esprit de Dieu, dans votre intimité avec justement Dieu, vous serez conduit par rapport à sa parole, à aller là où il faut, là où vous sentez bien, là où on parle de Dieu et là où on parle de sa parole. Mais nulle part, on parle des pharisiens, n'est-ce pas? Des pharisiens, des sadducéens et autres. Mais vous avez vu leur comportement vis-à-vis de Dieu alors qu'ils étaient serviteurs de Dieu. Ils étaient serviteurs de Dieu. Hein? Ils l'ont mis à mort. Non. Il nous faut entretenir cette relation avec Dieu. Hein? Alors, pour clore le chapitre de la prière, car c'est très important, voire tellement urgent, je vais vous faire une confidence de vous à moi. De vous à moi, mais c'est effarant. C'est effarant à mes yeux le nombre de chrétiens qui n'ont pas de vie de prière. C'est effarant de couples qui ne prient pas ensemble. C'est effarant parce qu'ils ne voient pas l'utilité de prier. Tu pries de ton côté, je prie du mien et tout. Moi, j'ai mon intimité avec Dieu, toi. Chers amis, la parole de Dieu regorge de passages nous exhortant à prier. Combien de fois Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez. Pour faire court, l'apôtre Paul nous dit, priez sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'attendre la réunion de prière, pour prier. C'est-à-dire, entre ces murs, nous prions, et puis, en sortant de là, aux oubliettes, la prière. Alors qu'on peut prier sans cesse. L'apôtre Paul nous dit de prier sans cesse. C'est-à-dire, nous pouvons avoir des rendez-vous intimes avec Dieu dans notre chambre ou ailleurs, dans notre maison. Mais nous pouvons prier aussi, j'aime à dire, même au volant de la voiture, sans fermer les yeux, s'il vous plaît. En faisant mon jogging, en faisant ma marche. Sans cesse, l'apôtre Paul nous dit. Et c'est exactement ça. Nous avons besoin de rester en connexion, pour employer un terme qui est souvent employé aujourd'hui. Rester connecté avec le Père. Ne pas voir l'utilité de la prière ensemble. Chers amis, la parole de Dieu regorge de passages, nous exhortant à prier. Beaucoup trop de dangers nous guettent pour que nous vivions comme si nous n'en étions pas conscients de cela. Pourquoi Jésus lui-même exhortait ses disciples à prier, à veiller et prier? Souvenez-vous de la dernière nuit de Jésus, alors qu'il était en train de revêtir, si je puis dire, petit à petit, notre humanité pécheresse, il se tourne vers son Père pour lui dire d'écarter cette coupe, cette coupe amère de lui. Mais il réagit en disant, toutefois, que ta volonté soit faite. Oui. Paul nous dit de prier sans cesse. Pourquoi Pierre identifie notre adversaire, le diable, à un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Sans cesse, il nous guette pour voir dans quelle faille il peut mettre sa tête, n'est-ce pas? Paul nous exhorte à persévérer dans la prière avec action de grâce, parce que nous demandons, nous redemandons, mais pensons-nous à dire Seigneur. Rien que ce matin, au réveil, jusqu'ici, jusque-là, nous avons des merci à dire. N'est-ce pas? Vous savez que on parle beaucoup des chrétiens persécutés, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous vivons là? Ce n'est pas une pleine liberté? Une pleine liberté, n'est-ce pas? Sommes-nous inquiétés? Vous savez, on ne sait jamais. On peut voir la porte s'ouvrir avec tout ce qui se passe maintenant. Et nous ne disons pas merci au Seigneur pour cette liberté que nous avons là. Hein? Et nous avons à prier car nous ne savons pas quand le Maître viendra, n'est-ce pas? Craignons qu'il ne nous trouve à son arrivée en train de roupiller. Pensez aux vierges folles. Vous savez, par notre manque d'action dans la prière, nous sommes comme dans un déni des dangers qui nous guettent. Alors, cela peut être identifié comme du laxisme. Alors, bien-aimés, veillons. Veillons et prions. C'est urgent. C'est plus que nécessaire. Si nous ne réagissons pas, c'est l'amenuisement de notre foi qui nous guette, voire son extinction. Alors, comme on dit, réaction, action, action. Alors, voyez-vous, tout cela pour contrer l'abattement qui peut nous guetter dans les situations difficiles. Mettons nos genoux par terre Mais nous ne sommes pas obligés de mettre nos genoux non plus, spécialement, on peut rester debout. Mais crier à lui surtout. Crier à lui. Hein? Nous sommes dans la brume totale quand nous sommes abattus. Et ceci pour X raisons. Parfois, nous avons du mal à placer, comme on dit, dans ces cas-là, un pied devant l'autre. C'est le brouillard. Et qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on s'isole. Ah, je ne vais pas à l'église hein, ce dimanche-là parce que j'ai été trop embêté dans la semaine et tout. Alors, je me pose là, ce dimanche-là, je n'y vais pas. Ah, je devais appeler un tel, mais non, je ne vais pas appeler parce que... Mais c'est la dernière chose à faire. C'est ce qu'il demande, l'adversaire. Que vous ne veniez pas rencontrer les frères et sœurs et tout. Que vous ne téléphonez pas aux sœurs ou à la sœur, aux frères. Mais, attention aussi, hein. Il est bon de profiter de la communion fraternelle. Mais il faut qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit limpide. Hein. Avant d'appeler le frère ou d'appeler la sœur, les genoux par terre, ou nos cris vers le trône de la grâce de Dieu. Nous nous éparpillons parfois, bien trop, avant de crier à Dieu. Et c'est d'abord à lui que nous devons aller. Et penser aux promesses de Dieu. Au fait, j'ai oublié de demander combien de temps que j'avais. Je peux continuer encore? Vous me dites top, hein? Il ne faut pas couper toute relation parce que nous sommes embêtés. Est-ce que c'est la faute de la personne qui est de l'autre côté du téléphone? Les promesses de Dieu. Qu'en faisons-nous? Dans le livre des Proverbes, au chapitre 12, verset 25, il nous est dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Mais une bonne parole le réjouit. Alors en venant ici, en rencontrant un frère, une sœur, en échangeant, eh bien, cette personne, ce frère, cette sœur peut avoir une bonne parole qui peut nous réjouir. Alors ne coupons pas les ponts. Au psaume 34, verset 19, il nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel nous dit par la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 66, verset 2, « Je porterai mes regards sur ceux qui sont abattus. » C'est une affirmation, bien-aimé. Le Seigneur, notre Dieu, n'est pas un homme pour mentir. Ses promesses sont formelles à notre égard et nous devons y croire. Et nous appuyer sur elle afin de sortir du marasme dans lequel nous pouvons être plongés. Souvenez-vous des paroles de l'Éternel, celles-ci adressées par le prophète Jérémie aux Judéens exilés à Babylone. La manière dont l'Éternel s'exprime dans ce chapitre 29, verset 11, nous le connaissons bien. Nous connaissons bien cette parole. N'est-ce pas? Et cette parole exprime le fait que notre Dieu a un parfait contrôle sur l'histoire et la destinée de Judas. Il sait pertinemment ce qu'il fait. Alors, il parle à ce peuple des projets qu'il a conçu pour lui, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur. N'est-ce pas? si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. J'ai nommé David tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez bien la vie de David? Vous connaissez ses hauts et ses bas, n'est-ce pas? Tous ses périples. Par où il est passé? Auparavant, permettez-moi de vous dire que ces paroles de l'Éternel concernant Judas, c'était hier. Aujourd'hui, elles sont pour nous. Aujourd'hui, elles sont pour nous. Pour tout enfant de Dieu confronté à un abattement, à un découragement, à une épreuve, quoi qu'il soit, si cette personne, cet enfant de Dieu fait confiance, met sa confiance en lui, si cette personne peut être confrontée à quoi que ce soit, s'il invoque l'Éternel, s'il invoque Jésus-Christ, en croyant qu'en lui est la délivrance, s'il le fait avec confiance, il sera exaucé. Alors, pas toujours autant que l'on voudrait, parce que son temps n'est pas le nôtre. Mais croyons qu'il est fidèle et qu'il se manifestera, n'est-ce pas? Si. Vous connaissez le passage du juge unique? Bien-aimé, Dieu nous invite à le chercher, et ceci de tout notre cœur, afin de le trouver, car il se laissera trouver par nous. Voilà. Alors, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Mais au préalable, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Jean 16. Jean 16, verset 33. Bien-aimés, nous ne sommes plus des étrangers, des gens du dehors. Mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous avons une nouvelle identité en Christ. Les choses anciennes sont véritablement passées. Nous sommes passés d'un côté à un autre côté. Vivons pleinement notre identité, l'identité que nous avons en Christ Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci de votre attention.